Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour à tous. Tour de vis pour juguler le Covid-19 en Europe. L'Irlande se reconfine pour 6 semaines. Le gouvernement part en guerre contre l'islamisme. Le ministre de l'Intérieur veut fermer la mosquée de Pantin en région parisienne et les patrons français des réseaux sociaux convoqués chez la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Des années de préparation et de labeur pour récupérer au moins 60 grammes d'un astéroïde. C'est la mission dans quelques heures de la sonde américaine Osiris-Rex.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
France Inter.
L'Irlande, Laurence, et le Pays de Galles se reconfinent.
Ce sont les premiers territoires en Europe à prendre de nouveau une telle décision. 6 semaines sous cloche pour l'Irlande, 2 pour le Pays de Galles. En Irlande, Emeline Vain, il s'agit de protéger le système hospitalier sous-financé.
Principale différence avec le confinement de mars dernier, les écoles restent ouvertes. Le futur de nos enfants ne sera pas une énième victime de ce virus, a justifié le Premier ministre Micheál Martin en annonçant le reconfinement. Autre nouveauté par rapport à mars, le concept de bulle sociale. Les personnes isolées auront le droit de s'associer entre guillemets à un autre foyer pour recevoir des visites. Le Premier ministre a également promis que le gouvernement allait investir dans les services de soutien psychologique. Recommandé par le Conseil scientifique depuis une dizaine de jours, ce reconfinement national entre en vigueur mercredi à minuit pour 6 semaines. Aux côtés des autres règles phares de la première vague, fermeture des commerces non essentiels, limitation des déplacements dans un rayon de 5 km, télétravail pour tous. Pour remobiliser des Irlandais lassés des restrictions sanitaires, Micheál Martin a défini un objectif, pouvoir fêter Noël encore plus important cette année. Dublin, Emeline Vain, France Inter.
Le reconfinement, mesure extrême, mais il est un geste indispensable qui rythme désormais notre quotidien. Le gel hydroalcoolique au creux des mains. L'épidémie de Covid a évidemment propulsé cette précaution sanitaire au premier plan. Conséquence, la demande aux produits d'hygiène et d'entretien a explosé ces derniers mois, plus 155% par rapport au début de l'année. La société Lips en Loire-Atlantique y a trouvé un nouveau secteur d'activité. Elle fabrique d'ordinaire du liquide pour vapotage, mais également du gel hydroalcoolique depuis le mois de mars et bientôt toute une gamme de produits virucides, biocides très prisés des Français. Béatrice Duguay.
Cette aventure commence avec la volonté d'être utile en début de confinement au mois de mars pour le cofondateur de Lips et ses employés.
On aurait pu se mettre en confinement et vraiment l'équipe de production a été extrêmement investie et vraiment fabuleuse. Et on a même dû mettre en place les 3-8 pendant cette période où tout le monde restait chez soi. On a aidé beaucoup de gens, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'EHPAD et en ce sens on est très fiers.
3 ministères et des écoles aussi, des clients auxquels Cédric Mérino-Riocher vend alors son gel hydroalcoolique au prix encadré par les autorités, quasi à perte. Aujourd'hui, cette production représente 20% de l'activité de l'entreprise de Saint-Julien-de-Concelles.
Ah, on n'imaginait pas ça du tout.
Du coup, il est en train de créer un département biocide au sein du laboratoire. Jonathan Harvey, le directeur marketing de Lips.
Quand on a commencé à dire qu'on allait faire d'autres produits que le gel, par exemple le spray désinfectant de surface, surtout ce produit-là, ça intéresse vivement nos clients existants.
On a formulé en fait un certain nombre de produits biocides qui ont un effet virucide mais extrêmement rapide et qui en plus sont compatibles avec l'écologie évidemment.
Les chimistes de la société ont également conçu un savon virucide et hydratant pour les mains des personnels de santé. Après le trou d'air économique du printemps, le laboratoire va embaucher 5 personnes d'ici la fin de l'année, probablement plus l'année prochaine.
Béatrice Duguay, pourquoi, avec quelle complicité, directe ou indirecte, Samuel Paty a-t-il été tué? 15 de personnes sont toujours en garde à vue, dont 4 collégiens. Les enquêteurs veulent comprendre leur implication. Un ou plusieurs jeunes auraient reçu de l'argent de l'assassin pour l'aider à identifier physiquement le professeur avant de le tuer. De son côté, le gouvernement est sur tous les fronts pour répondre à l'onde de choc provoquée par l'assassinat du professeur. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, réclame au préfet de Seine-Saint-Denis de fermer la mosquée de Pantin parce que son dirigeant a relayé le message disant que le professeur devait être intimidé, en donnant d'ailleurs l'adresse du collège. 2 associations sont menacées de dissolution, mais si tel est le cas, elles ont déjà annoncé qu'elles contesteront cette décision. Et ce matin, les patrons français de Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux sont convoqués chez la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Il s'agit de trouver un moyen de mieux réguler les contenus haineux publiés sur Internet, Mathilde Vinceneux.
Depuis 2004, la loi oblige les plateformes à supprimer promptement les contenus manifestement illicites, sauf que dans les faits, certaines publications passent entre les mailles. Olivier Itéanou est avocat. Selon lui, il faut contraindre ces plateformes à investir davantage dans la modération.
Envisager, pourquoi pas, que ces plateformes justifient d'un minimum de modération par des prestataires ou par des ressources internes.
Sauf que cette modération est opaque. Quand elle n'est pas faite par des algorithmes, ce sont des personnes dont on ignore les compétences qui s'en chargent, explique Emmanuel Netter, professeur de droit à l'Université d'Avignon.
Comment sont-ils formés à réagir face à des contenus violents? En cas de doute, comment leur est-il recommandé d'agir? Autant de paramètres qui nous sont totalement inaccessibles.
Selon lui, pour être efficace, il faut donc que l'État prenne les choses en main, instaure des permanences judiciaires chargées de contrôler les contenus en ligne.
Ces mécanismes de décision rapide par des juges, je crois que pour l'instant, ils ne sont pas mis en œuvre et qu'il n'y a rien qui permette d'obtenir une réponse à la fois étatique, judiciaire, et pourtant une réponse rapide. Et ça serait peut-être une piste à explorer, mais il faut des moyens.
Des moyens judiciaires, des moyens policiers. Le professeur en appelle aussi à la responsabilité collective pour stopper la diffusion des contenus haineux.
Mathilde Vinceneux, en attendant, les hommages se poursuivent en mémoire de la victime. Marche blanche à Conflans-Sainte-Honorine à partir de 18h30 devant le collège où enseignait Samuel Paty avant de rejoindre la place de la Liberté. Et demain, hommage national dans la cour de la Sorbonne, en présence du chef de l'État, Maxence Lambrecq.
Entre les statues de Victor Hugo et Louis Pasteur, le cercueil de Samuel Paty sera enveloppé du drapeau tricolore dans la cour pavée de la Sorbonne au pied de sa coupole. C'est ce que souhaitait sa famille. Ni les Invalides, ni le Panthéon, mais le Temple du Savoir, symbole du rayonnement éducatif, culturel, universitaire de la France, l'un des foyers des Lumières, depuis près de 8 siècles, carrefour des idées et des connaissances. Le chef de l'État y prendra la parole, hommage aux enseignants, ode à la liberté, plaidoyer contre l'islamisme radical. Emmanuel Macron fera face aux proches de Samuel Paty, à son gouvernement, aux anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, aux ex-premiers ministres, aux principaux dirigeants politiques. 300 personnes tout au plus pour respecter les règles de distanciation. Le public sera, comme aux Invalides, invité à rester à l'extérieur et le couvre-feu sera bien sûr respecté. La cérémonie se terminera au plus tard à 20h.
Maxence Lambrecq, fini la cacophonie. Aux États-Unis, la commission qui gère les débats présidentiels a pris la décision de couper les micros de Donald Trump et de Joe Biden à certains moments. En fait, chaque candidat aura 2 minutes pour parler sans interruption selon les différents volets du débat avant de pouvoir échanger à nouveau ensemble. Cet ultime débat avant la présidentielle du 3 novembre a lieu après-demain à Nashville, Tennessee. C'est un jour historique pour Rennes et la Bretagne. Pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais va disputer un premier match en Ligue des Champions. Ce sera ce soir face aux Russes de Krasnodar. Et le Paris Saint-Germain accueille les Anglais de Manchester United pour son entrée dans la compétition. Match également à 21h.
Et à 7h38, l'une des missions spatiales les plus excitantes aujourd'hui.
Après 4 ans de voyage, la sonde américaine Osiris-Rex va récolter la nuit prochaine quelques microgrammes de poussière d'astéroïdes. Cet astéroïde en question s'appelle Bennu. Il est à plus de 120 millions de kilomètres de la Terre, mesure 500 mètres de diamètre et ressemble un peu à une soucoupe volante. Il a été choisi soigneusement car les astronomes pensaient qu'il était couvert de sable. Et en fait, en s'approchant, Osiris Rex a découvert, Sophie Bécherel, un monde chaotique.
Une surface accidentée, rugueuse, pleine de rochers. La NASA a dû revoir ses plans et dénicher un site d'atterrissage sans danger. Il ne fait que 10 mètres, il va falloir viser juste. Même en dépit des répétitions, la collecte sera délicate, souligne Patrick Michel, spécialiste des astéroïdes à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
La descente, en fait, elle va se passer avec beaucoup d'autonomie, parce qu'on est à 300 millions de kilomètres, donc pas question avec un joystick de commander la sonde depuis le sol terrestre. On va descendre très doucement, il y a peu de gravité. À ce moment-là, en fait, il y aura un bras au bout duquel il y a un cylindre. Et lorsque ce cylindre va se poser à la surface, délicatement, on l'espère, en quelques secondes, il va émettre un vent. Et ce vent va entraîner les poussières dans le cylindre et celui-ci va ensuite remonter.
Ensuite, cap sur la Terre où les 60 grammes d'échantillons arriveront dans 3 ans. Avoir en laboratoire de la matière d'astéroïdes, c'est pouvoir l'étudier de près. Elle constitue les archives de notre système solaire, ses premiers instants il y a 4 milliards et demi d'années. Chantal Levasseur-Regour, astrophysicienne.
Les astéroïdes et les noyaux cométaires sont beaucoup moins modifiés que n'ont pu l'être toutes les planètes. quand on étudie une planète, même si on va se poser sur elle, on la voit telle qu'elle est aujourd'hui et pas vraiment telle qu'elle était à l'origine.
Et parce qu'un autre astéroïde a été prélevé l'an passé, du nom de Ryugu, on aura bientôt de quoi le comparer avec Bennu.
Sophie Bécherel.
Merci Laurence Thomas.